Audiolib présente Vipère au poing de Hervé Bazin, lu par Thibaut de Montalembert. Chapitre 1. L'été craonné, doux mais ferme, réchauffait ce bronze impeccablement levé sur lui-même. Trois spires de vipères à tenter leur fèvre, moins les saphirs classiques des yeux, car heureusement pour moi, cette vipère, elle dormait. Elle dormait trop, sans doute affaiblie par l'âge ou fatiguée par une indigestion de crapaud. Hercule au berceau étouffant les reptiles. Voilà un mythe expliqué. Je fis comme il a dû faire. Je saisis la bête par le cou, vivement. Oui, par le cou. Et ceci par le plus grand des hasards. Un petit miracle, en somme, et qui devait faire long feu dans les saints propos de la famille. Je saisis la vipère par le cou, exactement au-dessus de la tête, et je serrai. Voilà tout. Cette détente brusque en ressort de montre qui saute hors du boîtier, et le boîtier pour ma vipère s'appelait la vie, ce réflexe désespéré pour la première et pour la dernière fois en retard d'une seconde, ces enroulements, ces déroulements, ces enroulements froids autour de mon poignet, rien ne me fit lâcher prise. Par bonheur, une tête de vipère, c'est triangulaire, comme Dieu, son vieil ennemi, et monter sur cou mince, où la main peut se caler. Par bonheur, une peau de vipère, c'est rugueux, sec d'écaille, privé de la viscosité défensive de l'anguille. Je serrai de plus en plus fort, nullement inquiet, mais intrigué par ce frénétique réveil d'un objet apparemment si calme, si digne de figurer parmi les jouets de tout repos. Je serrai. Une poigne rose de bambin vaut un étau. Et ce faisant, pour la mieux considérer et m'instruire, je rapprochai la vipère de mon nez, très près, tout près. Mais rassurez-vous, à un nombre de millimètres suffisant pour que fût refusée leur dernière chance à des crochets tout suintants de rage. Elle avait de jolis yeux, vous savez, cette vipère. Non pas des yeux de saphir, comme les vipères de bracelet, je le répète, mais des yeux de topaze brûlée, piqués noirs au centre et tout pétillant d'une lumière que je saurais plus tard s'appeler la haine et que je retrouverais dans les prunelles de Folcoche, je veux dire de ma mère, avec en moins l'envie de jouer. Et encore, cette restriction n'est-elle pas très sûre? Elle avait aussi de minuscules trous de nez, ma vipère, et une gueule étonnante, béante, en corolle d'orchidée, avec au centre la fameuse langue bifide, une pointe pour Ève, une pointe pour Adam. La fameuse langue qui ressemble tout bonnement à une fourchette à escargot. Je serrai, je vous le redis, c'est très important. C'était aussi très important pour la vipère. Je serrai et la vie se fatiguait en elle, s'amollissait, se laissait tomber au bout de mon poing, en flasque bâton de Moïse. Des sursauts, bien sûr, elle en avait, mais de plus en plus espacés. D'abord en spirale, puis en crosse d'évêque, puis en point d'interrogation. Je serrais toujours. Enfin, le dernier point d'interrogation devint un point d'exclamation, lisse, définitif, et ne frémissant même plus de la pointe. Les topazes s'éteignirent, à moitié recouvertes par deux morceaux de taffetas bleuâtre. La vipère, ma vipère, était morte. Ou, plus exactement, pour moi, l'enfant, elle était retournée à l'état de bronze où je l'avais trouvée quelques minutes auparavant, au pied du troisième platane de l'allée du pont. Je jouais 20 minutes avec elle,